Alhamdulillah, as-salatu was-salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, muntabahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'du. Donc la dernière fois, on avait pris le deuxième ders concernant les droits de l'épouse, car elle a des droits également. Et malencontreusement, j'avais sauté le quatrième et cinquième droit. Je m'en suis rendu compte qu'après. Donc on va les reprendre aujourd'hui, pour ensuite poursuivre dans ceux qui sont dans l'ordre du livre. فقال رابعا وخامسا تعليمها وتأديبها. Donc quatrième et cinquième droit qui sont le fait, son enseignement et son éducation. Son enseignement et son éducation, c'est un droit qu'elle a. يقول أوجب الله على الرجل رعاية أهله وجعله مسؤولا عنهم. كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل راعين على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. Donc Allah Azza wa Jal a imposé à l'homme d'être un gardien pour sa famille et a fait de lui un responsable à leur sujet. Comme dans le hadith de Abdullah ibn Omar, radi Allahu anhuma, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que l'homme est gardien des gens de sa maison et il est responsable d'eux. Tout comme après l'homme, c'est l'épouse. وأعظم الرعاية أن يكون بتعليمها دين الله أو دين الله عز وجل فيعلمهم التوحيد والسنة ويحذرهم من الشرك والبدعة. Et la plus grande forme de responsabilité qu'il puisse avoir, c'est que il enseigne à sa famille la religion d'Allah عز وجل, qu'il enseigne le tawhid, qu'il enseigne la sunna et qu'il mette en garde contre le shirk et contre les bid'a. طيب. Et ce ta'lim demande à plusieurs, on peut le trouver dans plusieurs situations. Dans la situation où l'homme, masalan, serait plus savant que sa femme. Parce que des fois, c'est des femmes qui ont plus de ilm que leur mari. D'accord? Ça, c'est des cas qui arrivent. Elles ont déjà étudié, elles ont déjà une certaine avance, le mari est débutant, ou il s'est un nouveau converti, ou ce qui s'ensuit. Dans le cas où, ce serait l'homme qui aurait un surplus de connaissances. Il convient pour que justement l'enseignement soit propice, que certains comportements soient adoptés. Tout comme on le trouverait entre l'élève et son cheikh, il faut le trouver entre l'étudiant et son enseignant, même s'il est moindre qu'un cheikh. Et également, la femme avec l'épouse, avec l'époux, au fond, si c'est mais c'est lui qui l'enseigne directement. Et ce fondement qu'il y a à connaître pour celui qui veut apprendre, Allah Azza wa Jal nous l'a démontré dans son livre, dans l'histoire de Moussa avec El Khadir. D'ailleurs, c'est une faïda que j'entendais notre cher Yahya citer lors de Durus. Que l'histoire de Moussa avec El Khadir, c'est un ders pour l'étudiant avec son enseignant, qui est de ne pas se précipiter, et qui est d'écouter, et qui est de patienter, et d'avoir une oreille attentive pour comprendre, et non pas une oreille contestataire, trop hâtive, basée sur des connaissances. Comme a dit Ta'ala, هل اتبعك لن تعلمني مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا كيف تصبر ولما لم تحد به خبرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال لن تبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا. Est-ce que je peux te suivre afin que tu puisses m'enseigner de ce que tu as reçu comme connaissance? Al-Khadir, il a dit, tu ne pourras pas présenter ce que tu vas voir et ce dont tu n'as pas d'expérience. Et là, Moussa, il a dit, tu me trouveras certes patient sans m'opposer à toi. Là, c'est une condition qu'il y a dans l'enseignement, c'est que l'étudiant, il patiente, ne se précipite pas et apprend à rester à sa place par rapport à son enseignant. Et après, il a bien dit, Khadir, si jamais tu me suis, alors ne m'interroge au sujet de rien du tout tant que je ne t'aurai pas moi-même indiqué la cause. Maintenant, cela ne veut pas dire que l'enseignant est infaillible. Bien évidemment. Mais cela prend à quoi? Que l'étudiant doit apprendre à ne pas se précipiter à contester ce qu'il entend, qui va à l'encontre de ses connaissances, qui sont peut-être sont maigres, comparées à celles de son enseignant. Et d'ailleurs, Al-Khadir, à la base, était moins savant que Moussa, mais il avait un savoir que Moussa n'avait pas. Car Moussa, à la base, c'était le plus grand des messagers à son époque. Et Moussa fait partie des Ulul Azm, des cinq messagers les plus dotés de détermination. Donc Moussa, de façon générale, était plus savant qu'Al-Khadir. Rendez-vous compte. Mais simplement, Al-Khadir avait des connaissances que Moussa n'avait pas et que Moussa voulait acquérir. Donc il s'est rendu auprès de lui pour apprendre. Et là, il lui a bien dit, Al-Khadir, que tu ne patienteras pas. Tu vas avoir des choses qui vont te déplaire. Et si jamais tu me suis, alors dans le sens ne réagis pas, donc moi je ne t'expliquerai pas. Et après, vous savez ce qui s'est passé. Il a abîmé le bateau, il a tué le jeune garçon et il a restauré le mur. Et à chaque fois, Moussa a réagi. Et à la fin, Al-Khadir a dit qu'il arrêtait là le parcours avec lui, car Moussa, malheureusement, n'avait pas respecté l'engagement qui était d'attendre avant d'avoir une explication. Mais malgré tout, Al-Khadir lui expliquait les raisons de ses actes. Ce qui amène à ce que, justement, l'enseignant peut perdre patience lorsqu'il voit de son étudiant, qui à chaque fois conteste, à chaque fois veut rattraper, et à chaque fois veut débattre. L'enseignant, c'est un être humain. Et parmi les adeptes qu'il y a dans le ta'alloum, c'est de s'asseoir, de se poser et d'écouter. Quitte à réfléchir et à voir, car des fois, souvent les réponses apparviennent plus tard. Pas sur le moment. Combien de fois nous sommes-nous assis devant nos mâchères, les entendre émettre certains jugements sur certains sujets, et nous, on n'était pas d'accord par rapport à ce qu'on a appris. Et finalement, il s'avère que avec le temps, on a eu plus de connaissances et des paroles d'autres savants et d'autres règles, on s'est rendu compte qu'en fait, l'enseignant avait raison. C'est nous qui étions trop précipités en s'imaginant connaître alors qu'on ne connaissait pas, en fait. Et ça, c'est important de donner la valeur aux ulama, de ne pas négliger de leur rang, n'imagine qu'ils ne connaissent pas. Et ça, c'est la théorie des Ikhwan al-Muslimin, de tazil fil ulama. De dire que les ulama, ils connaissent pas l'actualité, ils savent pas ce qui se passe autour d'eux, ils sont pas au courant, ainsi de suite. Ça, c'est la voie des Ikhwan al-Muslimin. De négliger le alim dans sa connaissance. Et encore plus est, l'ensemble de ulama. Et on parle de ulama de la sunnah. D'accord? Donc là-dessus, c'est une chose qui est importante. Et il en est de même par rapport à l'étudiant avec son enseignant, même si c'est pas un savant. Et il faut prendre également cette règle-là dans la femme avec son époux lorsqu'il lui enseigne. D'où le fait que souvent l'enseignement entre l'époux et l'épouse, souvent ne dure pas. Car comme ils se connaissent d'un côté assez intime, la femme connaît les défauts de son mari et les défauts de sa femme, souvent ne patiente pas. Alors dans l'enseignement, le mari perd patience, et ainsi de suite, ou s'il voit que la femme ne fait pas d'effort, et voilà, ça peut amener à des discordes. Même Chamoubi, il en parle. De là, il l'encourage à ce que la femme enseigne auprès de femmes, plus avant qu'elle. Car les femmes se comprennent mieux entre elles, et ainsi de suite. Avec l'époux, la relation n'est pas la même. En plus, il se peut qu'un couple, juste pour une question d'enseignement sur une question religieuse, ils se disputent et après ils se boutent pendant plusieurs jours, alors qu'à la base, ça n'avait rien à voir avec leur couple. Donc, cette mafsada-là, elle est à éviter. Donc, quoi qu'il en soit, lorsqu'une personne a des connaissances plus avancées, il faut lui donner une certaine confiance et lui donner un certain respect, même s'il dit une parole qui pourrait paraître comme étant à l'inverse des connaissances acquises, il faut toujours émettre le doute, peut-être qu'il sait ce que je ne sais pas. Et le jour où la certitude elle est là, qu'il a vraiment tort, alors là, c'est une autre chose. Mais se précipiter tout de suite à répondre, d'accord, eh bien, cela nous montre qu'il se peut qu'en fait, c'est nous qui avons tort. Et l'histoire de Moussa et Al-Khadir est un ders pour nous dans le Coran. Non. Donc, le mari doit, si ce n'est pas lui qui enseigne à sa femme, faire en sorte de la diriger vers qui pourra l'enseigner ou s'assurer qu'elle prenne bien la science de personnes fiables, de savants de la sunna et d'enseignants de la sunna. Le minimum, c'est qu'il s'assure que les gens dont elle prend le ilm sont des gens fiables. Et il cita comme adilla le hadith de Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, salasatun lahum ajran, rajulun min ahli al-kitab, آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك إذا أذى حق الله وحق موالي ورجل كانت عنده أمه فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فلو أجران. Le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit qu'il y a trois personnes qui ont deux récompenses. Un homme, des gens du livre, qui aura cru en son prophète et qui aura cru en Mohammed صلى الله عليه وسلم. c'est-à-dire qui était par exemple un kitabi avant, un nasrani ou un yahoudi, et il croyait en ses prophètes, puis par la suite il a connu l'islam et il a cru en Mohammed. Lui, il aura deux récompenses, celle de sa religion précédente, même s'il était dans l'erreur parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas bonnes, mais lui, il pensait que c'était vrai, puis lorsqu'il a vu la vérité, il a accepté. Lui, il a deux récompenses, ce qu'il a fait auparavant, c'est accepter auprès d'Allah Azzawajal, du moins la récompense, on ne dit pas que ses actes étaient valides, mais il est récompensé pour son suivi, et deuxième récompense pour avoir accepté la vérité. Deuxième personne, c'est l'esclave qui rend le droit d'Allah Azzawajal et celui de son maître, dans le cas où l'esclavage est appliqué selon les règles. Et le troisième cas de figure, qui est celui qui concerne le Ders, c'est un homme qui avait une femme esclave, et il l'a éduquée, et il l'a éduquée correctement, puis il lui a enseigné de façon excellente, puis à la fin il l'a libérée, puis l'a épousée. Il aura deux récompenses. Donc cette libération n'a lieu qu'une fois que cette servante esclave a été éduquée, puis a été instruite. Car à la base, les esclaves en islam, ce sont des prisonniers de guerre, donc des koufars. On ne prend pas un musulman en esclave. Ce sont les prisonniers de guerre, lors du djihad, donc des koufars. Donc à la base, ils ne connaissent pas la religion. Donc on leur enseigne. Et par la suite, lorsqu'ils deviennent musulmans, il est recommandé de les libérer. Et qui plus est, celui qui est une esclave femme, qui l'a éduquée et qui l'a enseignée, par la suite, il la libère et voire même, il se marie avec elle. Donc ça, c'est parmi les noblesses de la religion. C'est pas un esclavage de suprématie et de profit matériel, c'est un esclavage de da'wah, de prédication pour que l'islam se répande plus facilement et qu'au final, les muslimounes finissent libérés. Ce n'est pas un esclavage de génération en génération avec les muslimines. Avec les koufars, s'il y a mille à lieu, oui. Vaut mieux un kafir sous ton autorité qu'un kafir libre qui fait du mal à droite et à gauche. Et également, on avait cité un hadith la dernière fois, dans le droit où celui qui part en voyage doit revenir au plus vite auprès de sa famille. D'accord? Et dans ce hadith-là, justement, il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il avait enseigné à ses jeunes compagnons qui étaient venus le voir, « Irji'u ila ahlikum, fa'aqimu fihim wa'allimuhum wa muruhum. » Il a dit « Retournez auprès de vos familles, restez auprès d'eux et enseignez-leur, c'est-à-dire ce que vous avez appris. » Et ordonnez-leur d'accomplir. Wa qala ta'ala wa'mur ahlaka bis-salat wastabil 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Ordonne à ta famille d'ordonner la salat et perdure dessus. Nous te demandons aucune subsistance, ça veut dire pour faire de la salat, Allah ne demande rien en contrepartie. Il dit mais c'est nous qui te croyons en foi de la subsistance et que la bonne fin est pour la crainte, c'est-à-dire la piété. وقال تعالى عن propos de Ismaïl وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا et qu'il ordonnait à sa famille d'accomplir la salat et leur donnait de s'acquitter de la zakat et qu'il était agréé auprès de son seigneur. Donc l'époux a pour rôle de surveiller la bonne pratique de son épouse et de ses enfants qui fassent la salat à l'heure convenablement leur siyam et ce qui s'ensuit. À la base chacun est capable de se normalement, de se responsabiliser, d'agir par lui-même. Mais on sait que la femme a plus d'inattention souvent. Donc, l'homme est là pour lui rappeler, autant que possible. Autant que possible. Et les enfants encore plus, évidemment. Et on a déjà pris le dalil général, qui est la préservation de la famille. « Fi kulli azza wa jal »« Ya ayyuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara »« Wa quduha an-nas wa hijara »« Alayha malaikatun ghiladun shidadun » La yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ô vous qui avez cru, protégez-vous, vous, ainsi que vos familles, d'un feu dont le combustible sera les hommes, ainsi que les pierres, sur lesquelles seront des anges rudes et durs qui ne désobéissent pas à Allah dans ce qu'il leur a ordonné et qui font ce qui leur a été ordonné. Donc c'est la responsabilité qu'il y a dans le chef de famille de se préserver lui-même et de préserver sa famille. Et de veiller à leur éducation religieuse. Comme on l'a dit ici, c'est pas lui qui s'en charge, qui fasse en sorte que cela soit se fasse par des gens fiables. Tes enfants, tu ne confies pas leur instruction à n'importe qui, au premier venu. Donc là, maintenant, on va revenir au droit qui était la suite du Ders d'hier. Yaqul Salis Achar, 13e droit. Il est azawaja al-bikr al-sayyib aqama indaha sab'an ثم قسم وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. Lorsque l'homme se marie avec une femme qui est bikr, là, il parle maintenant de la polygamie. At-ta'addud. La polygamie. Lorsqu'un homme se marie, alors il est déjà marié, mais il prend une deuxième femme, une bikr, on a expliqué c'était quoi une bikr. Une bikr, à la base, c'est souvent traduit par vierge, et en réalité, c'est une femme qui n'a jamais connu de mariage auparavant. Donc lorsqu'il se marie avec une bikr, il doit rester avec elle 7 jours. Ça veut dire un homme, il a une femme, il est déjà marié, puis il se marie avec une deuxième, sa deuxième est une bikr, il reste avec elle 7 jours. C'est un droit qu'elle a. Si jamais il se marie avec une thayyib, une qui a déjà connu le mariage, c'est-à-dire veuve ou divorcée, il reste avec elle 3 jours. Et cela parce que la bikr a besoin de plus d'attention. Surtout au début, qu'elle s'habitue à son époux. Car la base de la bikr, la base chez elle, c'est que de base, elle est vierge. Donc les relations intimes, elle est inexpérimentée, ça peut l'impressionner au début. Donc elle a besoin d'une approche plus raffinée et plus méticuleuse. Donc il y a besoin de plus de temps, comparé à ceux qui ont déjà connu cela auparavant. Et là, ça revient justement à ce sujet. D'ailleurs, Awalan, le Dalil, c'est le hadith de Anas. قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. Que il a dit Anas, fait partie de la sunna que si l'homme se marie avec une bikr alors qu'il est marié avec une thayyib, qui reste auprès d'elle 7 jours, puis après cela il partage. Il commence le partage après le 7e jour. Et dans le cas contraire, si jamais il se marierait avec une femme thayyib alors qu'il a déjà une femme qui était bikr de base, alors reste avec elle 3 jours. 3 jours. Et par la suite, il partage les jours. Donc là, il s'agit de ce sujet tant controversé et qui en réalité ne le mérite pas, qui est celui de la polygamie, qui est un jugement établi par Allah Azzawajal dans le Coran et sur lequel il y a ijma, unanimité qui soit légiféré. Après, les savants, ils ont divergé. Est-ce que c'est une sunna de le faire? Est-ce que c'est recommandé ou juste permis? C'est un droit que Allah Azzawajal a donné à l'homme d'avoir plusieurs épouses. Qui est maximum 4. Maximum 4 en même temps. Pas plus. Et malheureusement, ce jugement, aujourd'hui, a été vu en répulsion par la plupart des femmes, dû à leur grande jalousie, qui l'aurait excusé si cette jalousie ne dépasse pas les limites, et dû également à leur grande ignorance et à la mauvaise éducation qu'elles ont reçue en cette époque. Car auparavant, la polygamie était un sujet sur lequel il n'y avait pas de problème. Même chez les gens du livre. Être polygame, c'est une chose qui ne choquait pas. C'est un phénomène, on va dire, récent, qui amène à ce que la femme, on lui a accordé un droit qui n'est pas le sien, qui a été mis un statut qui n'est pas le sien, qui fait à ce qu'aujourd'hui, la polygamie est vue comme une injustice. Car si lui peut avoir 4 femmes, ben moi, je peux avoir 4 maris. Et c'est bien sûr, ce raisonnement, il est absurde. Car si demain, tu as 4 maris, et que tu tombes enceinte, qui sera le père des enfants, parmi les 4? En plus, on sait que dans la logique, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Nettement plus nombreuses que les hommes. Ça, même les koufars le disent. Car le taux de mortalité chez les hommes est bien plus fort que chez les femmes. D'accord? Et les femmes sont plus nombreuses. Donc si demain, chaque homme devait se marier avec une femme, il y aurait combien de célibataires sur Terre? Femmes. Et ces femmes-là, elles seraient privées de droits, d'avoir le droit justement d'être préservées dans leur chasteté, d'avoir un époux, d'avoir une vie de famille, ainsi de suite. Supposons qu'il faut la justice entre l'homme et la femme. En faisant cela, on serait injuste envers ces femmes célibataires. Vous voyez? Non. Et combien de femmes, physiquement, ne sont pas aptes à pouvoir combler un homme? Donc, justement, pour compenser, ce qui fait qu'il peut garder celle-ci, en prenant à la place, et ainsi de suite. Et l'homme est souvent amené à avoir plus de besoins physiques dans l'intimité que la femme. Donc, si sa femme ne le comble pas, qu'est-ce qui va se passer? Il peut tomber soit dans l'adultère. D'accord? Donc, tomber dans une plus grande injustice encore. Et autre. Donc, en réalité, la polygamie, c'était un bien femme, il faut le comprendre, il faut l'admettre. Mais surtout, il faut qu'ils soient bien appliqués. Car beaucoup de gens aujourd'hui voient les polygames, surtout les polygames qui ne font pas tradition, comme dans les pays africains, au Mali, au Sénégal ou autres, ils sont très polygames là-bas. Mais malheureusement, leur polygamie, elle n'est pas sur la sunna. Donc, une injustice flagrante apparaît, ce qui amène de la répulsion chez les gens. L'autre jour, je parlais avec un ami à moi, un frère, qui disait, subhanallah, ma mère, c'est une malienne, et elle est elle-même 3e épouse. Elle dit, j'ai des sœurs. Ses sœurs, elles-mêmes, il me semble qu'elles sont ses sœurs, elles-mêmes sont en polygamie. Et ainsi de suite. Il a dit, le jour où j'ai pris une deuxième, ma mère l'a pas acceptée. Vous vous rendez compte? Une femme qui est à base habituée, elle connaît la polygamie. C'est une chose qui est répandue dans les pays d'Afrique noire. Même chez les koufars. Dans les pays d'Afrique noire, même des koufars qui ne sont pas musulmans, la polygamie, la pratique. Malgré cela, elle n'a pas aimé que son fils rentre en polygamie. Pourquoi ? Parce que elle-même, la polygamie qu'elle vit, n'est pas basée sur la sunna. Donc elle la voit d'un mauvais œil. Donc comme la polygamie n'est pas vue sous son vrai jour, eh ben elle est combattue. Elle est mal interprétée et elle est mal comprise, malheureusement. Donc ça mène à tous ces déboires. Alors qu'en réalité, elle est un bienfait pour l'humanité entière. Taïeb. Après, il dit, Arabi Achar, quatrième droit. Donc maintenant, c'est des questions qu'il va évoquer relatives à la polygamie. Yajib alayhi an ya'dil bayna zawjatayhi aw zawjatihi. Non. 14e point, il est obligatoire d'être juste entre ses deux épouses, s'il en a deux, ou les trois ou les quatre. Et la dilla qui vient là-dessus, c'est tout la dilla où Allah Azza wa Jalla il appelle à la justice. Et parmi eux, inna Allah ya'muru bil 'adl wal ihsan, que Allah ordonne à la justice et à la bienfaisance. Wa qsitu inna Allah yuhibbul muqsitin, et soyez équitable, Allah certes aime les gens équitables. Wa qala Allah Azza wa Jalla فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. Donc épousez ce qui vous plaît parmi les femmes, deux ou trois ou quatre, donc la preuve que pas plus que quatre. Et si jamais vous craignez de ne pas être équitable, alors une seule. Ou alors ce que vaut, c'est-à-dire ce que vous possédez, c'est-à-dire vos esclaves, car il est permis à l'homme d'avoir des rapports avec sa femme esclave. Et cela est meilleur que devenir injuste. Et des gens, ce verset, l'ont mal interprété. Cela est meilleur que devenir pauvre, ils ont mis. Parce que celui qui aura plusieurs femmes aura plus de dépenses à faire. Et cela n'est pas vrai. Un ta'oulou, c'est devenir injuste, en fait. Car cette injustice peut être, justement, amenée à apparaître même pour un homme riche. L'injustice n'est pas que dans la dépense, mais dans plein de choses. Donc un homme riche peut avoir quatre femmes et être injuste avec elles, malgré tout. Tout comme un homme peut être pauvre, avoir quatre femmes et être juste avec elles. Donc ce n'est pas l'argent qui va faire la justice, l'équité. Non, c'est la crainte d'Allah, azawajal. Donc celui qui craint de ne pas être juste, même s'il a les moyens, alors vaut mieux qu'il reste avec une seule. Vaut mieux pour lui d'être raisonnable et de rester avec une seule. Una fatwa min al-lajna da'ima bi ri'asa العلامة ابن باز قال يجب على الزوج العدل بين زوجاته في النفقة والكسوة والمسكن والقسم والهدايا وغير ذلك من الأمور الظاهرة ولا يجوز له أن يعطي واحدة ويمنع الأخرى إلا برضاها وعفوها عن حقها. Donc il a dit, ils ont dit plutôt, qu'il est obligatoire à l'homme d'être juste, ou plutôt équitable envers ses épouses dans la dépense, dans l'habillement, dans le logement et dans le partage, dans les cadeaux et autres, dans les choses apparentes. Dans les choses apparentes. Et qu'il n'est pas permis de donner à une et d'en priver une autre. Sauf si l'une d'entre elles, d'elle-même, se désiste. Donc maintenant, cette équité qu'il faille appliquer entre les épouses, c'est dans tout ce qui est don et cadeau. Tu as plusieurs épouses, tu fais un cadeau à une, tu fais également à l'autre. Deuxième, troisième, quatrième. Maintenant, dans les besoins, cela diffère. D'accord ? Les besoins, c'est comme les enfants, en fait. Les cadeaux, les dons, faut être équitable entre eux. Mais tout ce qui est besoin, c'est autre chose. Par exemple, tu as deux épouses. T'en as une, sa machine à laver tombe en panne, par exemple. Elle marche plus. L'autre, sa machine, elle marche. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses à ce moment-là? Tu rachètes une machine à sec, dont la machine ne marche plus. Est-ce que du fait que tu achètes une nouvelle machine à celle qui ne marche plus, tu faut que tu achètes encore une nouvelle à l'autre? Non. L'autre, c'est sa machine qui marche. C'est celle qui a une machine qui ne marche pas, tu lui rachètes une machine qui marche, c'est tout. Tu n'as pas ramené une nouvelle machine neuve à l'autre alors que sa machine, elle marche. Il n'y a pas de besoin là. Par contre, les deux, elles ont des machines. Mais elles sont un peu vieilles. Tu dis, allez, on va faire de nouvelles machines. Tu en achètes une nouvelle machine à l'une de tes épouses. Eh ben, t'achètes une nouvelle également à l'autre, également. Car là, ça rentre au-delà du besoin. Ça rentre dans le don. Car à la base, les machines, elles fonctionnent. D'accord? T'en as une, elle a des vêtements. L'autre, l'un de ses vêtements s'est déchiré. Par exemple. Donc, tu leur achètes un vêtement à la place. C'est l'impôt que tu achètes à l'autre? Non, car l'autre, elle a ce qu'il lui faut. D'accord? Maintenant, elles ont des vieux vêtements toutes les deux, tu veux les renouveler leur garde-robe, t'achètes à l'une, t'achètes à l'autre. Par exemple. Ou troisième, ou quatrième. Donc, bien différencier entre les besoins et entre les dons et les cadeaux et les choses qui sont optionnelles. Là-dessus, faut être équitable, faut être égal. Et ça, c'est l'un des points cruciaux de la polygamie, c'est l'équité. L'équité et la justice. Maintenant, il va citer des points qui reviennent à cette polygamie. Il dit ويجعل لكل زوجة بيتا مستقلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه. Donc il doit accorder à chaque femme un domicile, d'accord, qui lui est propre, comme l'a fait le Nabi صلى الله عليه وسلم. Chaque femme a son logis. Il n'est pas permis à l'homme d'imposer à ses épouses de vivre sous le même toit. Cela ne lui est pas permis de l'imposer. Elles doivent chacune avoir leur lieu d'habitation indépendant. Et ce fut le cas du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Chacune des épouses avait son propre lieu. Séparé. D'accord? Mathalan, t'as un frère, il a un appartement. Il a 5 pièces. Ou en 6 pièces. Il met chaque femme dans une chambre. Et le reste de la maison, c'est partagé. On dit non. Ça, sauf si elle accepte, sans quoi leur droit est qu'elles aient leur lieu, avec leur cuisine, avec leur salle de bain, tout ce qui leur est propre. Et quand bien même elle accepterait, on dira, tu vas t'ouvrir une source de problème avant cela. Le meilleur, c'est de le séparer. Car la femme est jalouse. La femme est très jalouse. Donc toi, mieux vaut que tu sépares entre tes épouses, sans quoi tu vas avoir des problèmes. Maintenant, il y a des cas rares, on trouve les co-épouses, elles s'entendent bien, mais c'est rare. Ça arrive, mais c'est rare. D'accord, c'est rare. Là-bas, c'est que la femme, elle est jalouse. Les épouses du Nabi, sans un homme qui étaient les meilleures des femmes, étaient très jalouses. Lorsque Aïcha, radiallahu anha, a su que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, allait se remarier, elle a souhaité mourir. Elle a mis ses pieds dans les fourrés, elle a dit, Ya Rabbi, Akrab, Ya Rabbi, Haya, c'est-à-dire, Allah, envoie-moi un scorpion, un serpent qui me pique, pour que je meure. Tellement ça lui faisait mal que son époux se remarie. Mais est-ce qu'elle s'est rebellée? Est-ce qu'elle a fait des crises? Est-ce qu'elle a menacé? Non. Sa jalousie ne lui a pas fait dépasser les limites. Mais la jalousie, on peut pas la blâmer, c'est là. C'est normal. D'ailleurs, même un homme qui prendrait une autre épouse et sa femme ne réagit pas, ça serait un problématique. On dirait, ça ne te fait rien, je prends des... Non, ça me fait rien du tout. T'es pas jalouse? Non, je suis pas jalouse. Eh ben, là, ce serait vexant, même, pour l'homme. C'est-à-dire, si t'es pas jalouse, c'est que tu m'aimes pas. Donc, ce côté possessif que la femme a envers son mari, c'est noble. C'est bien. Mais il ne faut pas que cela amène à dépasser les limites. C'est ça qu'il dit aux femmes, en fait. Donc, il faut prendre l'exemple sur les femmes du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient meilleures que les femmes aujourd'hui, et pourtant, elles ont partagé leur mari. Et elles l'ont accepté. Et ça, c'est un truc qui est important chez les femmes qui refusent la polygamie, c'est que ce refus peut amener à un stade qui est très dangereux en religion, qui est celui de quoi? De l'apostasie. Car cela viendrait à détester une chose que Allah azawajal a légiféré. ذَلِكَ بِنُمْ كَلِهُمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَتَ أَعْمَالَهُمْ. Dans le Coran, Allah dit, c'est du fait qu'ils ont détesté ce que Allah a fait descendre, donc il aura annulé leurs œuvres. Parmi les nawaqid de l'islam, annulatif de l'islam, il y a le fait de détester une chose de la religion. Donc si une femme déteste la polygamie, faut voir cette détestation à quel niveau elle est. Car cela peut la faire sortir de l'islam. C'est très dangereux. Mais attention, on précise bien que ce n'est pas toute détestation qui est annulatif de l'islam. Des fois, il y a des choses qu'on les déteste pour les conséquences qu'il y a derrière et non pas pour le jugement en lui-même. Dans le Coran, Allah dit « Kutiba alaykumul qital wa wakurhun lakum » que le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est détestable. Dans quel sens? Le fait de détester la mort, la peur de la blessure, la peur de la fatigue, tout ce que implique les batailles. D'accord? L'âme n'aime pas cela. Mais est-ce que cela veut dire que les sahaba ont détesté le jihad en lui-même? Jamais de la vie. Mais juste, ils détestaient au fond d'eux ce que cela pouvait impliquer. C'est comme quelqu'un qui se lève pour le fajr, il est très fatigué. C'est l'heure de la salat. Son âme préférait dormir encore. Donc il y a une forme de détestation. Mais est-ce qu'elle est pour le fait de la salat du fajr en soi? Non. C'est sur le fait de se lever du lit, enlever la couette alors qu'il fait froid, aller faire l'ozo, faire la salat. C'est tout. Mais sinon, est-ce que ça veut dire qu'il déteste la salat du fajr? Jamais de la vie. Sinon, il sort de l'islam automatiquement. Donc il y a des femmes, d'accord? Ce qu'elle déteste, c'est ce qu'il va avoir comme concurrence, comme peut-être le fait qu'ils s'imaginent que le mari aura moins d'argent car l'argent sera partagé, la jalousie. Mais en elles-mêmes, elles disent pas la polygamie, je suis contre. Mais elles diront juste, en fond de moi, mon nefs, c'est dur. D'accord? Mais cette dureté ne doit pas la pousser à dépasser les limites, à empêcher son mari de pouvoir le faire, et de faire des crises, et d'en arriver à l'insulter, et de se rebeller, et de faire du mal à la co-épouse. Non, ça non, c'est pas permis ça. Ça peut aller très loin. Et en plus, on dit souvent les femmes qui refusent la polygamie. T'es déjà marié, Ourti. Ton mari te dit, je prends une deuxième épouse. Elle a dit, non, je veux pas. Si tu te remaries, je demande le divorce. Ça, on va le prendre plus tard dans les droits. Qu'il n'est pas permis à une femme de demander le divorce de sa co-épouse. Qu'il n'est pas permis à une femme de demander le divorce sans raison. Sans quoi le paradis lui sera interdit. Ça, c'est pas une raison qui est valable. Taïeb. Donc déjà, tu vas contrarier ton époux. Pour jusqu'à là, lui rendu permise. Tu dis, je demande le divorce, je pars avec les enfants. Donc tu vas priver le mari d'avoir ses enfants auprès de lui. Ensuite, tu le divorces. Tu vas aller où? Tu retournes chez tes parents? Donc tu vas retourner sous l'autorité de tes parents. Et souvent, les parents, si tu acceptes pour cela, c'est que souvent, c'est les parents qui sont pas salafis. Parce que les parents salafis vont pas te laisser divorcer pour cette raison-là. Ils vont te dire, non, tu restes avec lui, c'est pas une raison qui est valable. Donc tes parents, c'est des awam. Tu vas retourner dans une maison où il y a plein de péchés. Dans ta chambre, tout seul avec tes enfants. Tu vas le supporter? Tu vas pas le supporter. Il va falloir refaire des démarches pour avoir un appartement avec les services sociaux et je ne sais quoi. Enfin, dans l'engrenage de la France. Si jamais c'est en France, je ne sais où. Donc encore des problèmes. Tout ça pourquoi? Pour éviter une polygamie. Et au final, allez, t'as eu ton appartement toute seule. Avec les enfants et tout. Encore des problèmes avec tout ce qui est allocation, tout ce qui est, pension, ce qui s'ensuit. Je pense que, en tant que femme, tu ne voudras pas rester célibataire. Tu as des besoins. Tu vas te marier avec qui? Par la suite. En tant que femme divorcée, avec 1, 2, 3 enfants. Qui penses-tu qui va se présenter à toi en général? Un qui est déjà marié. Donc tu vas fuir une polygamie avec le père de tes enfants pour en tomber dans une autre, avec un homme inconnu qui ne connaîtra pas tes enfants. Qui peut-être va les maltraiter. Ils vont pas s'occuper d'eux, alors que eux, ils avaient leur père qui était là. Donc, on dit à la sœur, sois raisonnable, sois intelligente. Reste avec ton époux. C'est mieux pour toi et mieux pour tes enfants. C'est amer, c'est difficile à accepter, mais c'est mieux pour toi. Et au final, tu finiras par t'y habituer. Et rappelle-toi que les femmes les mères des croyantes étaient meilleures que toi, Aïcha était meilleure que toi, Salama était meilleure que toi, Habiba était meilleure que toi, d'accord? Saouda était meilleure que toi, Zeynep était meilleure que toi, et ainsi de suite. Et pourtant, elles avaient le même époux qui était le meilleur des hommes. Et cela leur a valu quoi? Le paradis. Subhanallah. Et en plus, en faisant la guerre à ton époux pour qu'il ne prenne pas une deuxième épouse, tu refuses à une femme un droit qu'elle a de se marier et de préserver sa chasteté. Et on craint pour les femmes qui fassent cela que demain, ce soit, comme on dit, un retour de bâton. Que demain, tu n'es pas à l'abri que ton mari te divorce, et ça, on ne te le souhaite pas, ou qu'il vienne à mourir, tu sois veuve. Donc demain, tu veuilles te remarier. Tu es une femme qui a déjà un âge avancé. Tu as des enfants. Qui va t'accepter, en général? Un homme en polygamie. Et qu'est-ce qui va se retrouver devant toi? Sa première épouse, elle va être contre toi, tout comme toi tu étais contre celle qui a voulu venir en deuxième avec ton époux. Tu vas subir ce que tu fais subir à autrui. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yuminu ahadukum hatta yuhiba li akhihi ma yuhibu li nafsi min al-khayr. Qu'aucun d'entre vous ne croira vraiment tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même comme bien. Ce hadith n'aura pas été appliqué à ce moment-là. Ce hadith n'aura pas été appliqué. Donc on dit aux femmes de faire preuve de sagacité et de réflexion. La polygamie n'est pas contre vous si l'homme craint Allah et l'applique bien. Mais en refusant la polygamie, en demandant le divorce, en vous fuyant avec les enfants, vous allez faire plus de problèmes qu'autre chose. Et la perdante, ça sera toi, Ourti. Crois-moi bien, la perdante au final, ça sera toi, car Allah dans le Coran dit « Wa la akibatu lil muttaqin » que la bonne fin est pour les craintifs, les pieux. Et cet acte-là n'est pas de la piété. Cet acte-là est une injustice. Cet acte-là est une transgression. Cet acte-là est une rébellion. Et les gens qui agissent de la sorte ne réussissent jamais. Jamais. Donc, à ce moment-là, il faut rester raisonnable, d'accord? Quitte à pleurer, ce n'est pas grave, c'est permis de pleurer. Quitte à exprimer sa tristesse, naam. Être jalouse, c'est normal, d'accord? Mais, surtout, craindre Allah azawajal et ne pas dépasser les limites. Ne pas dépasser les limites prescrites, car c'est une chose qu'Allah azawajal a fait descendre et a légiféré et que le meilleur des hommes l'ont appliqué. les meilleurs des hommes l'ont appliqué. Tout comme on dit aux frères qui s'engagent à la polygamie, de craindre Allah Azzawajal, de ne pas prendre la polygamie comme punition pour la première. Tu m'embêtes, je prends une deuxième contre toi. Ça non, c'est une mauvaise, ça c'est une mauvaise chose. T'as déjà commencé pour qu'elle n'accepte pas la polygamie. Et c'est toi qui vas te perdre au final. Car ta première femme va te faire des problèmes. Donc toi, plutôt que la faire détester la polygamie que déjà elle n'aime pas trop, n'agis pas de la sorte. On a tous fait cette erreur-là hein, dans la colère. Je vais me remarier. Voilà, c'était une erreur de notre part. C'était une erreur de notre part d'agir de la sorte. La polygamie n'est pas une vengeance en soi. D'accord ? Ce n'est pas une vengeance en soi. Mais c'est une maslaha. C'est une maslaha. Et on conseille souvent les frères, quand vous voulez vous remarier, ne torturez pas vos épouses en parlant. N'en parle pas, ça sert à rien d'en parler. Tu vas lui faire du mal pour rien. Pourquoi ? Peut-être que tu vas parler de polygamie. Elle va être triste. Peut-être même vous allez vous disputer. Peut-être même qu'elle va divorcer avant que ça arrive. Dans le comportement, elle va mal parler, tu vas te mettre en colère, ça va être un divorce. Alors que ça se trouve, tu n'auras même pas de deuxième devant toi. Ni de troisième, ni de quatrième. Ça se trouve, tu n'auras jamais de polygamie. Et tu auras gâché ta vie avec ta première épouse pour une chose que tu n'as même pas encore obtenue. Sois intelligent, sois sage. D'accord ? Le jour où tu as une chose concrète et qu'il faut en parler, parle-en de la meilleure façon. Mais en parler alors que tu n'as rien, tu as les mains vides, tu vas te mettre en dispute avec elle pour rien du tout, pour une chose que ça se trouve, tu n'auras jamais. Donc sois intelligent toi aussi, Harry. Ta vie, facilite-la. Facilite-la. D'accord ? Facilite ta vie et ne mets pas des conflits là où il n'y a pas besoin d'en avoir. Voilà, une vie de couple, moyen de conflit, mieux c'est. Et toi, tu viens, tu ouvres la porte au conflit comme ça, sans raison valable. Ça sert à rien. Ce n'est pas intelligent d'agir de la sorte. Thumma yaqul. Donc on a dit qu'il doit être juste dans le partage. Et même dans le partage de quoi ? Des nuits et des jours. Et ça, on va reparler, Inch'Allah. Yaqul wa yuksim li kulli imra' yawman wa layla. Qui doit donner à chaque femme qui va avoir son jour et sa nuit. Son jour et sa nuit. C'est ce que faisait le Nabi Yusuf sallallahu alayhi wa sallam, qui donnait à chaque femme son jour et sa nuit. Maintenant, il faut comprendre une chose. Que la chose qui est de base, taïeb, c'est que c'est la nuit qui est prise en compte en réalité. C'est-à-dire que c'est à partir de la nuit qu'on compte. Car c'est le moment où tu cohabites avec la femme et que tu es présent avec la femme. Car la journée, l'homme est amené à sortir et être occupé. Donc en réalité, dans la journée, l'homme peut être libre d'aller à droite, à gauche. Mais le moment où il peut être le plus strict dans l'emploi du temps par rapport à la polygamie, c'est la nuit. Il doit rendre à cette épouse son droit qui est de passer la nuit avec elle. Après, il y a des gens, ils vivent de nuit. Par exemple, c'est un homme, il a un travail, c'est la nuit. À ce moment-là, bien sûr, le jugement, il va changer. Il accordera à sa femme la journée. C'est-à-dire que le jugement de la nuit deviendra la journée. Mais de base, c'est la nuit qu'on accorde pour le repos, pour la paisibilité, pour la quiétude et pour l'intimité. C'est la nuit. Donc la femme, elle a droit à sa nuit. Après, il dit, فِنْ كَانَ لَهُمْ رَأَتَنْ فِي بَلَدَيْنُ مُرْتَلِفَيْنِ فَعَلِيَ الْعَدْلِ بَيْنَهُمَا. Maintenant, si elle a deux femmes, par exemple, deux ou trois, et qu'elles habitent dans des pays différents, et ben malgré tout, il doit être équitable dans le partage. De telle sorte à ce qu'il s'arrange pour passer un temps avec une et un temps avec l'autre, équitable. Tant qu'il n'y a pas eu d'accord au préalable à l'amiable qui ont été conclus. Ou alors il a des épouses dans des régions différentes, dans le même pays, mais t'en as une qui est dans le nord, l'autre dans le sud. Ça lui de s'arranger pour partager les temps. Par exemple, il fait une semaine avec une, parce que ça, il ne pourra pas faire une nuit. Il sera tout le temps dans la voiture ou en transport et voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait ? C'est lui qui s'arrange. Trois jours une, trois jours l'autre. Une semaine l'autre. Un mois l'autre. Deux mois l'autre. Ça dépend de la distance, ça dépend de l'arrangement qu'il y a eu entre elles. Maintenant, c'est une. Mathalan, une se désiste et dit « Je sais que c'est difficile pour toi, moi je ne te demande pas de venir tout le temps me voir, mais au moins tu me donnes parfois mon droit, ou tu me donnes tel et tel droit, mais je me désiste que tu viennes me voir à chaque moment. » Ça c'est un accord à l'amiable, et cela est une chose qui est faisable. Et la femme, elle en est remerciée de faciliter à son époux. Elle dit par exemple « Moi ma priorité c'est pas de te voir tous les jours. Ma priorité c'est telle et telle chose. Je me désiste de tel droit. » Mathalan, comme ce fut le cas pour Saouda, qui s'est désisté de ses nuits, elle les a accordées à Aïcha, car elle craignait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne la divorce. Donc elle a dit, je préfère rester ton épouse, quitte à ne pas avoir de nuit, et garder mon statut de femme du prophète, de mère des croyantes, et être avec toi au Jannah, quitte à, en ce bas monde, délaisser mon droit, et quitte à le délaisser, alors je te le laisse, pour la femme que tu préfères, qui est Aïcha. D'accord? Donc Saouda a délaissé ses nuits à Aïcha, pour rester auprès du Nabi, sans salam. Elle dit, je préfère ne pas avoir de nuit, que perdre le mariage. Et ça, Inch'Allah, on va reparler dans le Ders, dans le Kita, ça va venir. D'accord? Lorsque la conciliation, quitte à se désister de certains droits. Pour garder le mariage effectif, cela est meilleur. Et il dit également que celui qui est marié avec une femme muslima et une femme kitabiya, par exemple, une femme c'est une muslima, l'autre c'est une chrétienne ou une juive, c'est le même partage. Il dit pas elle c'est une juive, elle a moins de droits. Elle c'est une chrétienne, elle a moins de droits. Non, elles ont le même droit dans le partage. Est-ce qu'il s'ensuit? Et aussi, la femme qui est malade et la femme qui a ses menstrues. C'est le même droit, le même partage. Même s'il n'y a pas de rapport avec elle, c'est le même partage. On va s'arrêter là, Inch'Allah, aujourd'hui. En espérant que ça aura été clair. Naktafi bi hadha al-qadr. Wa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.